Cascodeur Podcast, épisode 221. Massacre à la tronçonneuse. Enregistré le 5 décembre 2019.
Pour soutenir les cascodeurs, allez sur patreon.com/lescascodeurs. Merci de votre aide. Bonjour et bienvenue au Cascodeur, épisode 221. Tout le monde travaille à la maison ou aimerait travailler à la maison en ce 5 décembre, jour de perturbation.
Climatique ou quoi et,
ou politique. Pas, en tout cas, moi je me suis arraché la moitié du visage avec mon rasoir, donc en station dans l'air.
C'est pas une bonne journée.
Comment tu penses qu'il n'y a pas la vidéo?
Ça va, vous? Bon, moi, du coup, je suis local, donc je peux aller travailler si je veux.
Ah oui. Non, bah, à la maison, ouais. Moi, il n'y a même pas du tout de train. C'est zéro train. Rien du tout.
Ouais. D'accord. Ouais, au moins, c'est plus clair que 1 sur 27.
C'est vrai. C'est ça. Non, c'est pareil ici, rien du tout, mais de toute façon, je travaille toujours à la maison, donc ça ne change pas grand-chose. Mais ouais, non, ouais. Rien du tout. Mais quelques enfants à la maison
sont importantes, ouais. Ne l'oubliez pas.
Même si c'est tant loin. Que Free Orange ne fait pas du breakability.
Et EDF, donc on demande juste à EDF de nous laisser du courant pendant une heure et demie pour enregistrer. C'est gentil.
Parce qu'on est chauffé à l'électricité aussi peut-être, donc ça a d'autres impacts. Bon, alors on va se lancer.
Je croyais qu'on commençait pas route. Par la partie loi et société, mais c'est un peu société quand même comme sujet.
Hein. Ouais, c'est clair.
Bref.
On va commencer par les langages, c'est un épisode news, et la première c'est que GraalVM 19.3 est sorti avec un support en preview de JDK 11.
C'était demandé depuis pas mal de temps, hein. Les gens attendaient, ouais. Graal c'est cool, mais on voudrait bien qu'il soit là en 11.
Ouais.
Et donc Quarkus aussi j'imagine... Vous avez...
Alors, pas tout de suite, parce qu'évidemment, ils ont cassé un truc... en fait, non. Évidemment, on n'avait pas notre master qui testait leur master. Et à un moment, on a détecté des problèmes. Et comme on était dans le rush de la 1.0, on a trouvé un problème qui doit être corrigé dans la 19.3.1, mais qui va sortir probablement en janvier. Donc voilà. Donc au niveau timing pour Quarkus, ça sera plutôt janvier pour le support de la 19.3 quelque chose.
Ah, d'accord. C'est vrai que du coup, oui, ils l'ont sorti juste après vous. Ouais.
Ils l'ont sorti, oui.
Enfin, une semaine après. Ouais, 15 jours.
Ouais.
D'accord.
Mais c'était déjà.
Oh, ça ne saurait tarder.
Voilà, ouais. En tout cas, ça reste un preview, donc c'est pas mal à tester parce qu'ils ont fait un gros travail où avant ils prenaient tout le code et puis ils faisaient des substitutions sur le JDK Java pour dire bah voilà ça on va l'utiliser différemment parce que GraalVM Native Image etc. Mm-hmm. Et en fait quand ils sont regardés JDK 11 avec les changements de JDK 11, ils sont aperçus que cette histoire de substitution à maintenir c'était vraiment compliqué pour eux. Et surtout qui ne supportait pas non plus tout dans les couches bas niveau, notamment bah, quand ils avaient démarré, il y avait le support TCP mais pas UDP, ensuite l'IA mais pas forcément multicast, voilà, il y avait un certain nombre de choses un peu limitantes. Donc ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils se linkent à SunExec ou un truc comme ça, c'est une librairie en gros qui est partagé qui correspond à la partie C de la une partie au moins de la partie C de la du JDK au sens pur, et du coup ils réutilisent en gros l'implémentation de ça et ils font un binding avec le C, donc ils perdent un tout petit peu dans les optimisations pures qu'ils pouvaient faire avant, mais au moins ça leur permet une portabilité entre JDK 8, JDK 11 et le futur, et du coup s'adapter beaucoup plus simplement. Okay. Sachant qu'il n'y a pas le support des modules. Mais bon, sondage qui utilise les modules. Voilà, personne.
Levez la main. Non, je vois personne. Non, okay.
Non, ah, ça oui. Serait intéressant de voir qui utilise les modules, pourquoi, en dehors de, voilà, des gens qui sont vraiment dans le JDK, et qui
sont obligés à voir ça.
Il y a quand même des efforts. J'ai vu quand même passer sur pas mal de librairies, à droite, à gauche, le fait de supporter les modules et d'être des modules, de manière à ce que, mais effectivement, après, trouver des end-users qui les utilisent, Je sais pas. Après, c'est toujours le même problème de tant qu'il n'y aura pas assez de modules disponibles, bah, les gens ne font pas le bon. Faire l'effort, ça a un coût. Est-ce que ça a la valeur à ajouter? Bon, ça va être plus compliqué cette histoire.
Ouais. Ouais.
Ça bouge pas mal, en tout cas côté Graal. Ils annoncent aussi Graal Wasm pour WebAssembly. Donc, ouais. Graal VM, là, c'est vraiment. Ça devient un peu le. Enfin, j'allais dire la VM. Je trouve que ça porte mal son nom, mais la plateforme multi-langage finalement, parce que tu vas pouvoir aussi faire la même chose que tu fais avec ton Java, mais aussi avec du WebAssembly, du WASM. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors c'est pareil, ça doit être Initial Public Work, donc c'est peut-être plus une annonce et c'est peut-être pas encore bien sec, mais ils ont l'air d'avoir implémenté le. Donc il y a une sorte de spécification, le WebAssembly MVP, qui donne l'ensemble de base qui doit être supporté pour tout ce qui est censé être compatible WebAssembly, j'imagine. Alors je suis pas du tout un expert, hein, j'ai encore jamais joué avec WebAssembly, mais en tout cas ils ont atteint ce premier niveau de compatibilité là apparemment.
Alors. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va pouvoir écrire la partie front en WebAssembly qui sera déployée directement sur du Graal.
Alors, front pas forcément, mais tu as de plus en plus de langages qui proposent des back-ends WebAssembly. Donc, oui. Par exemple, si je dis pas de bêtises, Rust ou même Go, il me semble qu'il y a un truc pour Go.
D'accord.
Qui peuvent compiler en WebAssembly. Et après, d'accord. WebAssembly, du coup, avec GraalVM, tu peux le faire de toute façon en natif.
Okay.
Avec, enfin, si tu veux, ça met une étape éventuellement supplémentaire, mais c'est intéressant. Bon, après, Rust ou Go font déjà du, c'est peut-être pas les bons exemples à prendre, mais qui font déjà du natif. Mais
Mais là, ça permet de faire ça à côté JVM, etc.
Ouais. Mais okay. C'est vrai que, par exemple, tous les TypeScript, etc. qui sont, mais plutôt par exemple côté back-end, pas forcément. Parce que côté front-end, je vois moins l'intérêt, à part peut-être, tu vois, si tu fais des choses genre server-side rendering et tu veux que ce soit fait en natif, mais je sais pas si c'est des use cases qui sont supportés ou qui.
Des JSP ? On va refaire des JSP ? Oh, enfin
ouais,
oh,
chouette, je suis content.
C'est vrai que c'est trop marrant de voir. Alors attends, on fait du server-side rendering, après on revient sur client-side. Non, mais finalement c'est bien server-side. Puis on va en refaire du client-side, c'est un éternel.
Mais je serais intéressé pas, si quelqu'un connaît un.
Quelqu'un qui s'y connaît qui bon en français,
voilà, pour
ça,
faire une interview là-dessus. C'est pour moi. Alors WASM, c'est un sous-ensemble pour vraiment faire en dehors du navigateur.
Ouais.
Mais WebAssembly, de manière générale, c'est en gros de dire on peut prendre des DLL et les truster et, au lieu d'avoir le JavaScript qui est interprété et analysé à chaque fois qu'on récupère quelque chose des sites web. Donc c'était ça la promesse de WebAssembly. Et là, ils veulent prendre WASM, c'est la version en gros sans navigateur.
Ouais.
Et effectivement, le support, ils sont à peu près à 50% des perfs ou un truc comme ça, là. Parce que j'étais au GraalVM Workshop.
Ah, d'accord. Cool.
Qui était à Zurich. Et du coup, ils parlaient ils ont annoncé l'état de l'art où ils en étaient. Je crois qu'effectivement, ils supportent tous les. C'est pas du bytecode, mais c'est équivalent, quoi. Sauf qu'il n'y a pas de. Il y a un truc un peu plus linéaire. Mais bref. Et donc, ça fonctionne. Et ils disaient, pour un premier prototype, d'être à peu près à 50-60% de la référence, c'est plutôt bien et encourageant. Mais effectivement, si on en est à cet état-là, c'est vraiment un prototype aujourd'hui.
Mm-hmm. J'allais dire, il y a aussi WASI, c'est le WebAssembly System Interface, qui est, donc comme tu disais, il y a la partie web, le contexte web, mais tu as la partie aussi, donc WASI, ça doit être la partie qui donne aussi accès aux primitives système de l'OS de la machine. Et ça, je crois que c'est des choses qu'ils n'ont pas non plus encore supportées, qui ne supportent pas encore complètement avec ce qu'ils ont annoncé là.
D'accord. Mais alors soit ils essaient de réinventer Java, c'est pas clair. Est-ce que c'est comme LLVM en gros, un backend, voilà.
Et c'est quoi le but?
Voilà. C'est pour moi, c'est pas encore super clair tout cet écosystème et qu'est-ce qu'ils essaient d'adresser comme problème.
Ouais.
Et mais plus par manque de connaissances. Mmh. Et l'autre truc, c'est effectivement Graal VM, parce que j'avais la même discussion avec eux, en quoi c'est une VM, mais en bref, pour eux, VM, c'est un terme assez surchargé dans le mode académique, mais en gros, effectivement, ils supportent plusieurs langages via Truffle, qui est en gros un interpréteur, hein, et puis plusieurs back-ends, que ça soit donc LLVM, maintenant Wasm, et d'autres. Et donc, ils se veulent un peu cet outil intermédiaire où rajouter un langage, ça coûte pas beaucoup plus cher, et rajouter un back-end, ça coûte pas beaucoup plus cher, et d'être cet outil intermédiaire qui essaie de simplifier beaucoup de ces choses-là. Voilà.
Sinon, dans les news là récentes, enfin c'était fin octobre et je crois pas qu'on l'avait mentionné, il y avait donc là plus côté Java du coup, Microsoft qui a, par l'intermédiaire de notre cher Bruno Borges, qui a annoncé que Microsoft avait signé en fait le Contributor Agreement d'Oracle qui leur permettait de contribuer à OpenJDK. Et donc c'est chouette de voir que Microsoft, avec tous les changements que Microsoft a eu ces dernières années, donc ils vont pouvoir contribuer directement comme ça à OpenJDK. Et ils l'ont fait à d'autres endroits, par exemple le fait que Microsoft, enfin que Edge utilise le moteur de Chrome, la Chromium, c'est pareil, ils se sont mis à contribuer énormément. Donc ils sont vraiment sérieux au niveau de leur contribution open source, et c'est vraiment agréable à voir.
Ouais, c'est clair. On continue à voir avec progrès, avec plaisir en fait, tous ces efforts.
Il y a plein de JEP aussi là qui sont prévus pour Java 14.
Donc, c'est 14, ça sera une LTS ou pas?
Non, c'est tous les 6, c'est 17 qui sera, 6, attends, d'accord. 1, 2, 3, oui, c'est 17 qui sera LTS. Donc non, d'accord. C'est pas encore LTS. Donc les 3 que j'ai vu qui vont être rajoutés, t'as le pattern matching pour instance off, les records et le packaging tool, alors lui que je connais pas bien. Donc pattern matching, ça va être le fait de... En fait, quand tu fais, par exemple, if l'objet est instance of d'un type, en fait, après, en Java, t'étais quand même toujours obligé de caster ce truc-là dans le type cible. Donc, si on dit if obj instance of string, tu faisais quand même string s, cast string obj. Alors que là, en fait, vu qu'on sait que l'objet est une chaîne, bah en fait tu vas pouvoir utiliser cette variable-là, même si au départ elle n'a pas été déclarée comme chaîne, tu vas pouvoir l'utiliser comme si c'était une chaîne. Donc par exemple, tu vas pouvoir faire to uppercase, contains, etc. Sans souci. Donc ça c'est un truc qu'on appelait, nous dans Groovy, on appelait ça flow typing, c'est-à-dire qu'on suit le type effectif de la variable en fonction de ce qui lui a été assigné. Et du coup, ça t'économise en tout cas une ligne et un cast pas joli. Et le compilateur, maintenant, il est plus intelligent. Donc ça, c'est pas mal.
C'est marrant qu'ils appellent ça pattern matching, en fait.
Ouais, mais en fait, fait partie... En fait, c'est un sous-ensemble de ce que le pattern matching fait et fera à terme dans Java. Donc, t'as aussi besoin de... Parce que c'est quoi le matching, le pattern que tu matches? Bah, tu vérifies que ça, c'est d'un certain type. Donc, c'est une sorte de matching quand même, de toute façon. Tu vois? C'est pas que... Enfin, okay. C'est pas que structurel, c'est aussi le type, etc. Le pattern matching, ça contient pas mal de choses. Donc, ça, c'est le pattern matching. Alors, par contre, donc, c'est en preview. Donc ça veut dire qu'il faudra utiliser, j'ai oublié le, c'est quoi, c'est tiret tiret enable tiret preview je crois, le flag pour pouvoir utiliser ces nouvelles fonctions en preview ou expérimental. Attends, est-ce que je le vois écrit dans le doc? Non, ça doit être écrit ailleurs. Donc évidemment ce sera pas encore disponible directement, il faudra activer ce flag. Alors, tu dis quoi en français? Activer ce, C'est quoi un flag? Ce paramètre, non?
Ce drapeau.
Ce drapeau, ouais, ça fait bizarre.
Non, on a, comment on appelle
ça? Désolé.
Cette fonctionnalité,
ouais. C'est les flags, les feature toggle, tout ça. Mais pourquoi on utilise tous les termes en anglais? Bref. Donc, on aura aussi les records.
Oh là 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 là, depuis le temps que c'est demandé.
Ouais, donc tu vas pouvoir faire, par exemple, si tu veux faire un point, tu écriras au lieu de faire classe, point, machin, tu pourras faire record, point, et les paramètres, pas par défaut, mais qui construisent ton objet, enfin, ce que tu passes en général dans ton constructeur, mais ceux qui sont... je sais pas comment on pourrait les qualifier ceux-là. Enfin, tu sais, genre un point, c'est x et y, mais tu pourrais imaginer avoir d'autres paramètres, je sais pas, θ et phi, etc., mais qui peuvent se retraduire en x et y. Donc les paramètres vraiment structurels de ton record. En fait, tu vas faire record point. Tu ouvres les parenthèses et tu passes x et y. Un peu comme en Scala où tu peux faire ça avec le constructeur par défaut. Et après, accolade, et tu définis le body de ton record. Et donc ça aussi, c'est en preview. Donc on va falloir effectivement l'activer à nouveau.
Et attends, pour que je comprenne effectivement, ouais. En gros, quand tu déclares ta classe comme un constructeur, enfin, comme une signature de constructeur, ça déclare et le constructeur... Et aussi le fait que tu vas et les getters en fait, enfin pas un getter mais en gros le champ, l'attribut, et ça va les remplir avec la valeur que la construction, c'est ça?
Ouais. Et c'est pareil après, genre ce que là je regarde la documentation, le JEP par exemple, tu vois donc t'as quand même un constructeur parce que tu veux définir, je sais pas, par exemple tu veux que ce soit que des coordonnées positives, donc tu veux jeter une exception si c'est pas le cas, etc. Par exemple, donc tu auras public point, mais tu auras pas de parenthèse comme dans un constructeur normal, tu passes directement au corps, donc tu mettras directement après les accolades, et là tu regardes si x égale machin, si y égale machin. Et puis tu lances une exception ou tu fais autre chose ou un post-traitement, enfin peu importe. Donc voilà. Et ça aussi, les records, ça fera quand même partie, donc vu qu'on parlait de pattern matching juste avant, c'est aussi une des choses qui vont faciliter le pattern matching après. C'est-à-dire que tu pourras matcher sur des records en fonction, je sais pas, tu veux trouver tous les points qui sont sur l'abscisse ou sur l'origine. Tu regarderas en fonction de x égale 0, y égale 0, par exemple. Et du coup, tu pourras mettre ça quand tu feras les... Alors du coup, je sais pas à quoi le... C'est ça, ce sera... J'ai perdu le fil du switch qui, normalement, lui, doit intégrer le pattern matching à terme. Mais normalement, du coup, c'est pareil dans les switch qui font le pattern matching. C'est là que tu pourras définir. Donc, on a dit les aspects type, comme l'astuce avec le instance of, la structure, par exemple, quand tu fais des langages, imagine une opération A fois B plus C entre parenthèses, donc tu as mult qui prend une valeur et une addition, tu vois, et tu devrais pouvoir, on va voir comment ça va évoluer l'aspect du pattern matching, mais tu vas pouvoir dire, moi je veux que ce soit une multiplication d'une valeur et d'une addition, et alors je peux faire l'inverse de la distribution là. Donc comment on dit déjà distribution quand tu distribues les je sais même plus, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de maths.
Ouais, c'est ça.
Tu distribues a fois b plus a
fois c'est ça, mais je crois que c'est distribution qu'on dit en français.
Distribution, c'est ça. Ouais,
il me semble aussi.
Comment t'es rouillé à force.
Ouais, c'est ça.
Donc voilà, les records aussi, ça va être bien pour ces switches améliorés. Donc aussi pour regarder exhaustivement les cas, etc. Parce qu'après, et ça je crois pas qu'il est inclus dedans, parce qu'il y a aussi la notion de sealed types, qui est alors dans un autre JEP 360, mais qui lui, je crois pas... Ah sinon, il est déjà en preview, le sealed type. Je sais plus du coup s'il est déjà dans 14 ou pas. En tout cas, ces trois-là que je cite, plus le packaging tool dont j'ai pas encore parlé, ils ont été rajoutés enfin, Wizzet, ils sont pas rajoutés encore dans le scope, mais ils vont être votés si oui ou non ils vont être rajoutés dans le scope de Java 14. Et donc le dernier packaging tools, par contre, je sais plus ce qu'il fait.
C'est comme JavaFX,
c'est la... Java Packager, c'est... ouais.
Ils veulent reprendre le concept qu'ils avaient fait pour JavaFX. Ils ont un Java Packager Tool, ouais, et ils veulent l'étendre à tout ce qui est pour JVM pour essayer de créer des installeurs directement, des MSI, voilà, des exe, d'accord, des trucs comme ça. Voilà. Donc c'est, bah, c'est dans la logique de ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont commencé à faire avec les modules et tout. C'est, ils essayent aussi de targeter un peu plus le natif et d'arrêter de d'être dépendant de l'installation de JDK, de la JVM, etc.
C'est, ah bah oui, c'est JPackage en fait.
C'est JPackage.
D'accord. Ouais, c'est ça.
Donc du coup, je lisais un petit peu les records là pendant que tu parlais. Et il y a, en fait, ça crée un champ privé avec le nom des trucs
X et Y
dans les paramètres. Voilà. Il y a un accesseur public du même nom qui n'est pas un getter.
Ah oui, c'est X parenthèse au lieu de getX.
Parce que c'est immutable, c'est ce que t'as peut-être pas dit. Je crois que tu l'as pas dit.
Ah non, j'ai pas dit.
Mais la grosse différence, c'est ce qui change par rapport à une classe, c'est que le record, lui, il est immutable. C'est bien l'idée d'avoir des données immutables. Bon, comme ça existe dans plein d'autres langages aujourd'hui. Et voilà. Donc c'est ça qui
immutable à peu profond, parce que si l'objet est immuable.
Ouais, j'imagine.
Alors, c'est immutable basse, alors.
Voilà, exactement. Ah!
Ça y est, on a retrouvé Guillaume.
Minutes. Allez.
Ouais, désolé, j'ai mis un peu de temps à me chauffer, mais ça y est, je commence. C'est bon. Et d'ailleurs, alors, vu qu'on parlait du Switch, il y avait aussi Stephen Colburn qui râlait un peu sur le nouveau Switch. Donc il étudiait, alors il réexplique comment le classique Switch fonctionne. Après il explique aussi le nouveau Switch, on va pouvoir utiliser des flèches et donc les Switch aussi vont avoir donc normalement les Switch c'est des comment on dit en français, statement, c'est pas des expressions, c'est des instructions, non, c'est pas des, enfin bon, je sais plus comment dire en français, les statements, mais les switch vont aussi avoir une valeur, donc ça devient des expressions, donc on va pouvoir faire switch un booléen et case yes, enfin true false, donc ça, non, c'est pas un bon exemple, qu'est-ce qu'il prend d'ailleurs dans sa doc, switch par exemple un feu de circulation. Donc soit il est rouge, vert ou orange, et tu vas pouvoir retourner par exemple une instruction. Si c'est rouge, alors je m'arrête, si c'est orange, je me prépare à m'arrêter ou quoi, et vert, c'est bon, je peux démarrer. Et donc ton switch peut retourner en fonction des trois cas de figure, avec par exemple un enum ou pourquoi pas un record plus tard, tu vas pouvoir retourner ta chaîne de caractères, donc tu feras case, red, flèche, stop. Et donc tu pourras faire mon instruction égale switch, alors qu'avant switch c'était vraiment un statement, ça retournait pas de valeur. Donc il montre ça, il montre le, donc quand on fait avec le switch classique, si on veut que deux cas soient fassent la même chose, on mettait pas de break, donc il y avait le, comment on appelle ça, le fall through, c'est-à-dire si on met red et yellow, on faisait case red 2 points, case yellow 2 points, et ce qui était exécuté après, c'était ce qu'on avait mis dans la partie yellow. Et là, par exemple, le nouveau switch, on va pouvoir faire case red, virgule yellow, et flèche, et ça donne quelque chose. Le truc aussi, moi, qui... Alors, je sais plus où ça en est, ce truc-là, mais c'est pas mentionné dans l'article. J'avais l'impression qu'on pouvait mixer aussi les vieux 2 points et les nouvelles flèches. Et ce qui peut être un peu perturbant. Et sinon, quand tu utilises un bloc de code, donc quand tu fais case, yellow, flèche, là tu peux passer un bloc de code avec des accolades, y a un nouveau mot-clé qui s'appelle yield, qui sert en fait de return. Mais il est différent de return, parce que ça retourne pas de la fonction, enfin de la méthode englobante, mais c'est vraiment la valeur que le switch retourne, pour éviter un peu les confusions. Et alors pourquoi il râle déjà, je sais même plus. Enfin, en tout cas, il trouve que du coup les différentes, ça devient un peu plus confusant. Confusing.
En fait, il dit avec Yield, spécialement qu'il y a un nouveau truc pour dire j'arrête. C'est ouais. Le problème, c'est que tu. C'était quoi la bug, le Heartbleed, je sais pas si vous vous rappelez, mais le non, c'est ouais. qu'il y avait un bug d'Apple qui était super simple où en gros ils avaient oublié un break after a case et du coup le SSL était validé tout ouais. le temps. Et là on peut retomber dans le même genre de problème parce que si on oublie le yield, en fait on va continuer au case d'après et exécuter le bloc du case d'après en fait. Ouais. ce qui est un peu ce qui est dangereux. Et l'argument du groupe, c'est que comme le switch, ah oui, et puis il y a le côté non exhaustif, on est capable de rendre la liste du switch non complet, donc rouge et vert mais pas orange pour ton exemple de feu. Et du coup l'argument, c'est que on a toujours fait comme ça et du coup on veut pas casser la même sémantique que le switch classique. Et lui il dit c'est un peu dommage une erreur de 20 ans de pas la corriger avec ces nouvelles alternatives sur lesquelles on pourrait attacher des sémantiques un petit peu différentes.
Exact.
Donc effectivement.
Bon, après Stephen Colbert, il aime bien râler quand même. Il aime bien râler.
Ouais. Après c'est des points, c'est des points où après tu le revis pendant 25 ans, ouais. Donc c'est.
Je pense qu'il y a des choses qui se défendent dans ce qu'il dit. Dans ce qu'il dit, c'est justifié. Hein, les mots-clés en plus, le fait de la non-exhaustivité, c'est un peu bizarre. Effectivement, le switch qui retourne quelque chose, mais qui potentiellement, si t'as pas de valeur.
Qu'est-ce qui se passe?
Ouais, c'est ça. D'ailleurs, je sais même pas, il renvoie quoi dans ce cas? Un nul? Il fait quoi? Parce qu'il
doit non, il fait rien. Il doit. Sauf si t'as une clause défaut. Mais...
Ah, mais tu vois, quand tu l'as.
Ouais, mais si tu l'as signé quand quelque chose.
Tu fais var machin égal. Qu'est-ce que tu retournes?
Ton var, il va être nul, j'imagine. Enfin, je suppose. Donc, tu te retrouves avec un bon NPE. J'imagine. Je sais pas. J'ai pas testé. Ouais. Mais bon. C'est vrai que c'est un peu bizarre de pas faire plus d'efforts là-dessus, mais il y a toujours des raisons historiques, etc.
Yes. Alors, qui c'est qui triche sur le GC de Go avec du poids?
Alors, le GC de Go, c'est intéressant parce que je lisais. En fait, j'étais en train de regarder un tweet de Alexei Shipilev, qui est un des gars qui travaille sur les garbage collectors, notamment dans la JVM. Enfin, sur OpenJDK. Et il est référencé à un article sur Twitch, Twitch, mais bon, bref, c'est hyper populaire. Et donc, ils sont là, on a en gros un service Go qui fait toutes nos reconnexions et en gros la passerelle entre les utilisateurs de notre appli et puis notre backend. Et ils disaient, on avait quand même des consommations CPU qui était assez élevé en proportion par rapport à ce que faisait la machine, surtout que la machine en gros consommait pas beaucoup de CPU et surtout pas beaucoup de la mémoire qu'on lui donnait. Et donc ils se sont mis à analyser un peu ça. Et ce qu'il faut savoir dans le garbage collector de Go, c'est qu'il y a très peu d'options en fait. L'option, c'est qu'il y a qu'une seule option ou deux options, je me rappelle plus, mais le moins possible pour que vous ayez juste à définir, je crois, la latence que vous acceptez et puis le reste est inféré pour vous. Et donc dans ces heuristiques qui sont imposées et internes, le garbage collector, en gros, il commence à se déclencher que quand la heap a doublé de taille. Donc on mettons que on soit à 400 mégs ou je crois qu'ils disaient 400 mégs sur leur truc. Donc 400 mégs consommés, ça va les consommer jusqu'à 800 mégs et puis après il va dire tiens, j'ai fait x2 par rapport à la dernière fois où je me suis déclenché, je vais me déclencher pour vider et redescendre. Et dans le cas de Twitch, ils ont fait leur appli plutôt bien, donc il n'y a pas de leak, et du coup ça redescendait effectivement à 400. Donc ils ne consommaient que maxi 800 mecs de RAM, et du coup il y avait par contre des garbage collectors super fréquents, parce que à chaque fois qu'il y avait une entrée, il y avait des créations d'objets, et donc chaque requête générait des créations d'objets, donc il y avait du garbage collector pas mal de fois par seconde. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est le truc bien moche, c'est qu'ils se sont dit on va créer un array of bytes de 10 gigas. Comme ça le garbage collector a dit oh là là, on est à 10 gigas et puis quand on atteindra 20 gigas, je vais commencer à faire mon garbage collector et redescendre à 10. Et après ils disent vous inquiétez pas, les 10 gigas ils sont virtuels parce que j'ai défini ce tableau mais je l'ai pas vraiment alloué en pratique, donc c'est du virtual assignments qu'on a dans les systèmes d'exploitation modernes, enfin tous quoi en gros. Voilà, et il y a un truc intéressant, c'est que le garbage collecté, c'est du concurrent Mark Sweep, et ce qui coûte, c'est pas tant de détecter les objets morts, c'est de naviguer les objets qui sont encore vivants, puisqu'on part du début du graphe, et puis on navigue, et puis on marque les objets. Ah non, celui-là, il est vivant, celui-là, il est vivant, celui-là, il est vivant. Et ensuite, la partie sweep, c'est de passer sur la liste des objets et de dire, ah, celui-là, il est vivant, je vais pas le virer. Celui-là, il est pas vivant, je vais l'effacer. Donc, en fait, ce qui coûte, la partie sweep est en fait très rapide parce que les systèmes d'exploitation savent libérer la mémoire de manière très efficace. Par contre, la partie mark, c'est la partie qui coûte un peu. Voilà, et donc ce qu'il disait, c'est que nous, ça nous permet, en fait, le nombre d'objets vivants en pratique dans notre application, il reste constant à ces fameux 400 mégs, et du coup on peut avoir un cimetière de 10 gigas d'objets morts, et on va les quand on va faire le garbage collector, il va arriver moins fréquemment puisque finalement on a plus d'espace mémoire avant qu'il se déclenche, mais par contre il va être quasi tout aussi efficace en termes de vitesse et on va pas perdre en latence. Ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'ils ont gagné en latence. Et ce qu'ils avaient un peu surpris. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, alors ça, j'ai pas tout compris, mais le garbage collector Go, quand il est en mode, je suis en train de faire du garbage collector, il dit, les coroutines, vous êtes gentils, mais moi, je suis en train de bosser. Du coup, vous seriez capable de créer plus d'objets que ce que je vais pouvoir en effacer. Enfin, bref. Du coup, vous allez être obligé de faire du boulot. Vous allez être obligé de marquer vous-même les objets. Je crois que c'est ça qui se passe. Donc, les coroutines font du boulot de marquage. Des objets qu'elles utilisent, j'ai l'impression, ce qui fait que ça les ralentit. Et pour eux, du coup, le fait d'avoir moins de garbage collector voulait dire que il y a moins de temps pendant lequel le garbage collector est exécuté en parallèle, et du coup, les coroutines, dans la plupart du temps, sont plus rapides parce qu'elles n'ont pas à faire ce mark sweep en parallèle. Voilà. Et du coup, en gros, la morale de l'histoire, c'est que le coût à payer pour un garbage collector qui est super simple en termes d'ergonomique, de variables qu'il vous donne à disposition, c'est de tricher un petit peu avec des gros objets ou des choses comme ça. Ça rappelle les temps anciens de Java où, c'est pareil, on gardait des tableaux, on faisait des pools d'objets, tout ça, c'est un petit peu sorti maintenant, et parce que le coût de maintenir ces objets ou du garbage collector était considéré un peu gros. Voilà, vous avez compris quelque chose ?
Tout à fait.
Tout compris.
On était à fond dans le ménage, tu vois, on balayait tout ça.
Ouais, c'est ça. Ça non, mais du coup, c'était intéressant. Bah, tu vois, tu vas pouvoir retourner à faire les vitres là, parce que je vais parler de Shenandoah. Ah, Shenandoah, c'est un garbage collector.
Je vais aller faire pipi.
Qui est dans OpenJDK sur depuis je sais plus quelle version d'ailleurs.
11
et
au moins.
Shenandoah, ce qu'il fait, c'est que au lieu d'avoir cette phase de marquage, il a en fait ils ont attends comment ils font déjà. L'idée, c'est de pas avoir cette phase de marquage qui est un peu block the world, mais non attends, c'est pas ça l'idée. Ah oui, c'est ça. C'est que Shenandoah, en fait, quand il est en train de travailler sur un sous-bloc générationnel et de les, c'est pas générationnel d'ailleurs, mais de zone, voilà, et de virer les objets, il est censé avoir à les déplacer vers une autre zone pour refaire de la compaction et puis virer de la consommation mémoire ou des choses comme ça. Et ce que fait Shenandoah, c'est au lieu de dire, ben, je bouge ces objets, du coup, pendant que je bouge ces objets, je fais un stop the world de la VM parce qu'il va falloir que je mette à jour tous les pointeurs des autres objets qui pointent vers cet objet-là, parce que je suis en train de le bouger. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne mettent pas à jour les pointeurs et ils gardent l'ancienne version de l'objet, et l'ancienne version de l'objet va pointer vers la nouvelle version de l'objet, le nouvel espace en mémoire. Ce qui fait que on paye un petit coût à chaque lecture, puisqu'on est potentiellement, on va devoir aller lire l'objet qui est un petit peu après, donc avec une indirection, mais on élimine tout ce moment où on bloque et on fait un stop the world. D'accord ? Jusque-là, tout va bien ?
Tout va bien.
Ok. Et donc, par défaut, pour faire ça...
Mes vitres sont propres.
Alors, il faut pour faire ça, chez Landoa, ils demandent un espace supplémentaire avec, ben, en gros, potentiellement le pointeur vers le nouvel endroit où est l'objet. Et du coup, ça consommait plus en mémoire. En pratique, dans des applications, c'était 5 à 10% de mémoire, mais techniquement, sur l'objet le plus petit possible, c'était 50% de plus en consommation mémoire. Et il se trouve, quand tu regardes la structure des objets en mémoire, il y a un espace, un premier mot dans lequel il y a l'information sur est-ce que l'objet a été marqué ou pas. Et donc ça, c'est utilisable par les garbage collectors. Et donc ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de pas avoir à avoir ce mot supplémentaire par objet, mais de réutiliser cette partie commune à tous les garbage collectors. Donc ça, c'est bien. Pour faire ça, ils ont dû faire... alors c'est là où je vous laisserai lire l'article, parce que ça allait un peu dans le détail. Mais c'est parce qu'ils ont réussi à faire évoluer les barrières qu'ils sont censés lire à chaque fois qu'ils font des évolutions d'objets comme ça. Et donc ils sont passés à la... je sais pas quoi, read load barrier... Non, ouais, je vais dire des bêtises, donc je vais vous laisser. Mais en tout cas, ils n'utilisent plus de read barrier. Ce qui fait que le coût en fait de vérification de est-ce que l'objet est là ou est-ce qu'il est derrière, il ne se fait uniquement que pendant les phases de garbage collection, alors qu'avant elle était faite pendant toutes les phases, et que le code de décoding pour dire est-ce que cet objet il est là ou est-ce qu'il faut que j'aille après, il est assez fin, et dans leur test en fait il n'est pas visible dans les benchmarks. Donc ils ont réussi à éliminer cet espace mémoire supplémentaire. Donc non seulement ça fait gagner ces 5 à 10% de mémoire, mais ça veut aussi dire que il y a moins de pression sur le cache CPU qui est moins effacé régulièrement, et du coup une augmentation de la du throughput des applications. Donc pas mal de travail de fond pour arriver à ça, à ce garbage collector qui est qu'on appelle low pause, puisqu'il y a beaucoup moins de moments où il est obligé de bloquer la JVM de manière globale. Voilà, donc ça c'est une amélioration dans le dernier JDK qui va être backportée une fois que c'est considéré propre et
stable,
ouais. Voilà, backportée sur 11, voire 8 aussi, de mémoire.
Ah, même 8, ok.
Ouais, voire même, non je déconne. Non, parce que je crois qu'on avait backporté chez Nandoa dans 8 à l'époque où...
Ah.
Où Red Hat était le lead de la maintenance Java 8, en fait. Il y a des process assez spécifiques sur qu'est-ce qu'on peut backporter dans les anciennes versions une fois que c'est upstream et des choses comme ça.
Et moi, comme j'ai commencé, je crois, avec
si on
Java...
maintient aussi encore 8 ou si c'est quelqu'un d'autre, mais ouais. C'est pour ça que j'ai mis le passé.
Moi, comme j'ai commencé avec Java 1.0.2, est-ce qu'on peut... plaisant.
Celui-là, il y a du temps. De toute façon, le garbage collector, c'était quelque chose de cette époque. Mais d'ailleurs, oui, de ce temps-là, ouais. On faisait des trucs de psychopathe, du genre, bah non, il faut explicitement que je remette mon objet, les valeurs de mon objet à nul, parce que ça aide le garbage. Tu te rappelles ça?
Ça, c'est vrai.
Ça aide le garbage collector.
Bah oui, c'est vrai.
Qui sont devenus des anti-patterns, parce qu'en gros, au final, ça ralentit la JVM si tu fais ça.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est assez ouais. Rigolo.
On mettait les objets à nul pour être sûr qu'ils soient différenciés et que j'ai ouais, fait ouais. Son job, parce que sinon il le faisait mal.
Bah, sinon,
ah, c'était la belle époque,
il...
mes amis. Hein.
Ouais. Il marquait un peu trop, quoi.
Oui. Alors, les librairies.
Ouais, les librairies, il y en a. Bon, on en a quelques-unes.
Ah, il y en a plein dans le monde des librairies.
Ouais.
Eclipse Collection, c'est moi qui l'ai rajouté. Ça fait plusieurs fois que je vois passer des articles, des tweets, etc. Je sais pas, vous utilisez vous-même Eclipse Collection ou pas du tout? Vous avez déjà utilisé,
pas
testé?
Non, jamais utilisé.
Moi, j'ai pas encore regardé. J'ai regardé juste les docs, etc. Après, des librairies et des frameworks, il y en a tellement aujourd'hui que voilà, c'est compliqué de choisir. Historiquement, je pense que tout le monde utilise les Jakarta Apache Collection, enfin les Apache Jakarta Collection. Mais Eclipse a sorti, donc il y a un certain temps finalement, un framework de collection qui soi-disant donc est meilleur que tous les autres, donc y compris celui de Jakarta. Et je vous ai listé un article donc, qui date aussi du mois d'octobre, mais comme on n'avait pas eu de news en novembre, sur les 10 raisons de passer à Eclipse Collection. Et donc, a priori, alors là, j'ai pas vérifié, j'ai pas d'expérience encore sur le sujet. Donc, mais s'il y en a qui en ont, n'hésitez pas à nous en faire part et à commenter.
Un petit crowdcast?
Sur crowdcast ou sur la mailing list. Mais voilà. Donc, il paraît que c'est meilleur en termes de performance, que ça soit l'empreinte mémoire ou que ça soit, sur ce que vous pouvez en faire, puisqu'il y a du lazy loading, il y a de l'optimisation qui a été faite, etc. sur la partie performance. C'est fluent, en termes d'écriture d'API. C'est vrai que les collections, les apages, les collections classiques ne sont pas trop. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses côté faites, côté Eclipse Collection. J'ai vu pas mal de voilà de bruit autour de ça, je voulais le mentionner. Donc si vous avez des retours, je veux bien entendre parler aussi, parce que bah voilà. J'ai pas encore testé personnellement et je pense que ça vaut le coup de regarder. C'est fait chez la Fondation Eclipse, donc voilà.
C'est pas une banque qui avait sa propre collection.
Oui, à l'origine, c'est Goldman Sachs, non, qui avait donné
ouais,
ça.
Ouais, j'avais envie de dire Goldman Sachs, mais je suis pas sûr.
Il me semble que c'est celle-là. Mais ouais.
Du coup, j'ai essayé de rechercher l'origine, mais c'est marrant, on dirait qu'ils ont enlevé toutes les traces du fait que.
Non, ouais,
ah, si,
c'est
voilà.
Ça.
Donc c'est ça. Donc ça devenait open source en 2000. Donc en 2004, Goldman Sachs avait commencé ce truc-là.
C'est ça, c'est
vieux.
Ils l'ont
open sourcé en 2012 sous le nom GS Goldman Sachs Collections. Et après, ça a été donné à la fondation.
La fondation Eclipse.
Voilà. C'est donc c'est bien les Goldman Sachs.
C'est bien toujours les mêmes qui ont été voilà.
Super optimisés, tout ça.
C'est ça.
Voilà, voilà.
Donc à voir. Si vous avez des retours, n'hésitez pas à partager. C'est toujours intéressant.
Yes.
Mapper des erreurs HTTP, qui c'était ?
Ouais, c'est moi, donc c'est tout petit, mais pour les gens qui utilisent MicroProfil, donc il y en a de plus en plus, comme on a vu dans l'épisode précédent, notamment la partie REST Client, on reçoit les erreurs HTTP, mais ça c'est idiomatique de HTTP, et ce qui est idiomatique de Java en cas d'erreur, c'est des exceptions. Et donc évidemment il y a un mapper, enfin évidemment je sais pas, mais en tout cas il y a un mapper, on peut définir un mapper qui dit bah voilà, quand tu reçois une 412 tu fais ceci, une 500 tu fais ceci, et du coup pour avoir proprement l'exception qui va bien et gérer ça de manière disons idiomatique de Java. Donc pour ceux qui utilisent MP MicroProfil REST Client, je vous encourage à lire ce petit 3 minutes de lecture, un petit article là-dessus si vous ne connaissiez pas encore cet outillage. Voilà, sinon Eclipse Vertex 3.8.4 est sorti. On a beaucoup travaillé en main dans la main entre l'équipe Quarkus et l'équipe Vertex.
C'est mignon.
Oui, c'était où on s'est fait des petits bisous tout ça. Et pas mal de bugs qu'on a remonté, en fait c'est des cas d'utilisation qui étaient peu communs dans Eclipse Vertex de base, ou alors qui étaient pas naturels dans le modèle des verticals standards, et du coup on a pu reporter un certain nombre de problèmes qu'ils ont corrigé dans la 3, dans la 4, voilà. Donc c'est alors je me rappelle plus dans les release notes s'il y a quelque chose de vraiment significatif, mais c'est essentiellement des corrections de bugs, donc ça vaut le coup d'aller mettre à jour sa version. Voilà. Spring.
Oui, comment ne pas mentionner Spring Boot. Bah Spring Boot, on avait au mois d'octobre, dans l'épisode d'octobre, on avait mentionné la RC1 en fait, je crois, de Spring Boot 2.2. Alors qu'ils l'ont sorti juste au même moment, je pense que entre l'enregistrement et la publication, donc ils ont sorti la version finale. Donc Spring Boot est passé en version 2.2 là au mois d'octobre, fin octobre. Ils ont sorti la 2.2.1. La 2.2.2 va arriver dans les jours à venir, puisqu'il y a déjà des nouvelles versions de Spring Framework qui sortent encore là, qui viennent de sortir. Il y a quelques jours. Voilà, donc ça évolue côté Spring Boot. 2.2, on va pas refaire, on en a déjà parlé dans les épisodes précédents, un peu les nouveautés, mais c'était beaucoup axé sur les performances, les lazy loading, c'est toujours le même problème de quand on scanne le ClassPass, ça peut être très long. Donc ils ont fait pas mal d'améliorations sur la partie performance, le support Java 13, et puis bah tout un tas de petits autres trucs sur Spring Boot spécifique, voilà.
Tiens, j'avais pas rajouté, mais il y avait aussi, là, il y a quelques jours, 10 jours, il y avait la M1 de Micronautes 1.3 qui est sortie aussi, qui intègre le support de Micronautes Data directement. Donc, c'est pas du panache, hein, Emmanuel, c'est différent, mais c'est bien aussi.
Bah ouais, c'est généré...
avec ahead of time, comme dans comme
voilà,
dans
c'est Quarkus. Généré au moment du build, ouais. Les ouais. requêtes sont générées au moment du build.
Et du coup, bah, c'est super efficace, pas de comment on appelle ça, de enfin lazy loading et de réflexion comme dans Spring. Donc, c'est toujours intéressant pour les microservices qui doivent démarrer super vite et tout. Des propriétés de configuration immutables, pardon, le support du cache avec, donc c'est des intégrations qu'ils ont rajoutées avec EHCache et Hazelcast. Et puis,
plein et d'autres. Span, je crois.
Et, ouais, bah là, en tout cas, dans la M1, ok, bah peut-être bien, Finispan aussi. Et puis, plein d'autres petites améliorations sur l'intégration Kafka, sur les vues, sur gRPC, SQL, les modules Open API, etc. Donc ça, c'est la M1. Et je ne sais pas exactement quand est-ce qu'ils planifient la release GA, mais ouais, non, il n'y a pas de date de définie a priori pour l'instant. Mais ouais, Micronaut Data, c'est top ça.
Ouais. Top. Et pendant qu'on est là-dessus, donc Quarkus, donc il y a eu la 1.0 là, on en a parlé dans l'épisode d'avant, et puis il y a eu une 1.0.1.
Ah, il y avait eu un fixe de sécurité, c'est ça?
Ouais, alors je me rappelle plus le détail du coup, mais je crois qu'effectivement il y avait des problèmes de validation. Mm-hmm. Donc bref, c'est encouragé de mettre à jour. C'est un truc qu'on a dit. Bon bah ça, on va pas attendre. Là, ce qu'on veut, c'est une cadence tous les mois. Mais là, c'était pas un bug qui méritait d'attendre.
Puis vous l'avez sorti cache direct juste après.
Cache, on est comme ça, donc paf.
Ouais, bah, c'est bien, c'est cool.
Ouais, ouais. Bah après, tu sais, comme ça, on est un peu en, comment appelle ça?
Ouais, avec les CVE, vous êtes obligé.
On n'est pas Vlovien, si tu veux, parce que là, on en avait tellement fait les mois d'avant que là, tu vois, c'est genre détail, quoi. Ah oui, c'était un bug au niveau de la sécurité où la notation roles allowed, elle était potentiellement ignorée ou misinterprétée, donc c'est pas cool.
D'accord.
Voilà, donc c'est corrigé.
On peut peut-être parler aussi du radar SOTWORKS, parce que j'ai vu qu'il était noté un peu plus bas dans les news, vu que ça parle de Micronaut et de Quarkus.
Bah effectivement, donc ThoughtWorks qui publie, donc c'est tous les mois ou tous les trimestres, je sais plus, j'ai un doute, qui publie très régulièrement, plusieurs fois par an, donc son tech radar. Donc ça analyse en fait différentes, que ce soit des technologies, des langages, des frameworks, des pratiques, etc. Et donc dans la partie liée au framework, outils, etc. Donc ils ont rajouté Micronaut. Donc oui, j'oublie de dire. Donc il y a 4 niveaux, je crois, de d'adoption. Donc il y a trial, c'est-à-dire que ça c'est une technologie, ça y est, vous pouvez commencer à l'utiliser, essayer de l'utiliser dans vos projets. Non, attends, je sais plus
D'abord il y a adopt. Adopt. Genre là carrément faut y aller. Et ouais. Là c'est rigolo parce que dans les langages et les frameworks, il y a rien en adopt. Donc bon, ouais, vous pouvez donc, pas y aller.
Mais vous pouvez pas y aller,
vous pouvez essayer
pas
d'autres frameworks.
Voilà. Alors, attends, du coup, vas-y, c'est quoi les
Ouais, alors adopt. En fait, c'est un quart de cercle.
Ouais.
Et
c'est un radar.
Le plus proche, voilà ça, le plus proche du centre, c'est adopt, pardon. Et ensuite, il y a la partie trial où là, il y a vraiment quelque chose derrière, donc on encourage d'essayer. Ensuite, il y a la partie assess qui dit en gros, bah là, il y a quelque chose. Si vous voulez un petit peu tester les choses, bah c'est le moment de commencer à explorer, peut-être de faire des POC ou de mettre ça dans un coin. Et puis il y a hold qui est, j'imagine, parce que c'était dans le radar. Et puis là, ils se disent, bon, ça commence
faites
à puer.
Hein. Voilà. Ça pue du bec. Faites gaffe. Voilà. Il va peut-être falloir
en plus,
abandonner.
C'est enzyme qui est dedans, donc voilà. Les enzymes, on sait que ça pue un peu.
Ça fait voilà. Un Yes.
Voilà, et donc Micronaut est dans Trial.
Ouais.
Il a bougé de Assess, je crois, la dernière fois, un truc comme ça.
Ouais. Et Quarkus est dans Assess.
Et dans Assess, donc Quarkus est rentré. Donc on voit, en
mais
fait, c'est
Assess,
langage...
Je précise bien sur l'orthographe, il y a deux S à la fin. C'est pas.
C'est pas le pluriel même pas à comprendre
As.
La blague.
C'est pas le pluriel de As. Voilà.
Nous ne relèvons pas.
Ah oui, d'accord. As. je suis perdu
sans
là,
transition.
Du coup. Oui, non, ce qui est cool, c'est que les frameworks essaient de, de vraiment révolutionner Java. Voilà, ils sont, en fait, ils ont fait une entrée quand même assez fulgurante. D'habitude, c'est quand même difficile de rentrer dans ces radars. Et là, on voit Emicronaut et Quarkus rentrer. Donc, il y a, ça veut aussi dire qu'il y a vraiment un engouement global pour ces solutions. Donc, ça, c'est cool.
Ouais. Passons au middleware.
Ouais, middleware, et au middleware. Et Camel, et maintenant trois boss. Donc, Camel, le fameux. Chameau,
du coup, c'est quoi trois boss alors?
Alors, pourtant, il vient dromadaire. En fait, Camel 3 boss. Vient de sortir, donc voilà, ils ont rajouté une boss.
Ah, c'est un chameau et un dromadaire en fait. En même temps,
c'est voilà, c'est un boss. Chameau et un dromadaire. Alors, il y a grosse annonce, donc je vous laisserai lire le blog, parce qu'ils ont, en gros, ils ont corrigé 1000 issues ou un truc comme ça, sans parler des choses qui rentraient pas forcément dans les issues. Mais de ce que j'ai noté, donc. Pour eux, Camel, c'est plus seulement un seul projet, c'est un ensemble de projets. Donc, il y a Camel classique, on va dire, qu'ils appellent toujours Camel. Il y a Camel K, qui est déploiement de route Camel native dans Kubernetes avec des custom resource definition. Donc, assez très simplement déployer sa ressource et après, elle est maintenue. Et puis, il y a tout un écosystème de Camel extension for Quarkus où les fameux... Comment on appelle ça, les connecteurs Camel les plus utilisés ou les plus populaires ont un support dans Quarkus. Donc dans une application Quarkus, vous pouvez utiliser Camel et ses fameuses extensions, et donc ça grossit. Alors je sais plus combien il y en a, 20 ou 30 aujourd'hui et plus à venir. Un nouveau site web pour ceux qui ont déjà cherché de la doc Camel, c'est plutôt bien attendu, parce que c'était vraiment pénible, et ça faisait des mois voire des années qu'ils voulaient évoluer et ils attendaient la version 3. Donc là, c'est cool que tout soit sorti. Le support, c'est dommage que Vincent soit pas là, qu'il y ait des problèmes techniques. Apparemment, le DNS de SFR fait grève. Mais il y a le support de Java 11 dedans, et surtout un abandon planifié de Java 8 en 2020. Et donc, c'est toujours la grande question pour les frameworks. Quand est-ce que j'abandonne Java 8? Ce qui veut dire que j'abandonne les 84% des gens qui utilisent encore que Java 8 et que je passe vers Java 11 seulement. Voilà, donc ça, c'est eux, ils ont mis un point dans le sable. Si vous voulez rester sur Java 8 jusqu'à la fin de la vie, vous restez avec Camel 2. Voilà, le cœur a été modularisé, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup moins de classes qui sont à démarrer. Ils ont réussi aussi à réduire la réflexion. Tout ça, c'est le même travail autour de Quarkus et de GraalVM et des tendances qu'on voit, Micronaut aussi. Voilà, donc il y a le support de GraalVM via Quarkus. Donc en fait, vous écrivez une appli Quarkus et vous rajoutez les extensions Camel qui vont bien. Un DSL typé pour définir les points de entrée sortie. Donc je vais vous faire en anglais parce que là vous avez sûrement rien compris. C'est TypeSafe c'est un DSL TypeSafe de définition des endpoints. Voilà ce qu'ils avaient
Buzzword
pas avant.
Bingo. Woohoo.
Ouais, ding. Attends, il y en a un autre. Le cœur est réactif maintenant. Alors, ils exposent pas aujourd'hui des API réactives. Par contre, le cœur est réactif. Et ils ont l'intention d'ouvrir les API à du réactif dans le futur. Mais en tout cas, le cœur est déjà réactif, ce qui fait que ça, le gros travail en fait en dessous de la mécanique a été fait. Une intégration avec MicroProfile, donc on a vu MicroProfile config et d'autres, donc voilà, ils ont rajouté en gros des intégrations là-dessus. Et puis, alors j'imagine qu'il y a plus d'autres composants, mais il y en a quatre qui ressortent. GraphQL, qui est un nouveau composant, quatre intégrations avec des services AWS, et puis l'intégration avec Dibizium, qui est le fameux Change Data Capture en open source. Voilà, ça c'était Camel 3 Boss. On va passer
et
à l'infrastructure.
Coup, pour le 4, ce sera deux chameaux, alors, c'est ça?
Eh ben, on va voir. Ou alors, ils vont se mettre à en mettre sur le côté. Ça sera les tumeurs, tu sais.
Pauvre bête, vous êtes méchants. Ouais.
Alors là, grosse news, on l'a pas vu venir, celle-là. Je pense.
Wow.
Sonatype a été racheté par une boîte d'Equity Partners. Alors, Sonatype, c'est les gens qui... Alors... Dans la press release, ils annoncent que c'est une boîte de cybersécurité centrée sur l'open source. Mais pour nous, développeurs Java, c'est les gens qui font Nexus et puis surtout qui maintiennent pour la communauté Maven Central. ce fameux repo où il y a toutes les dépendances Java. Et donc, ça fait toujours un peu peur quand il y a une boîte qui est là pour faire un achat et faire un retour sur investissement, se met à racheter cette boîte qui est finalement, qui maintient un point essentiel de la communauté Java. Et donc, je sais pas vous comment vous avez vu ou si vous avez vu des articles qui se posaient des questions.
Après, il y a aussi, tu vois, G-Center de JFrog, qui a aussi toutes les mêmes librairies, jar et plus encore. Donc, à la limite, il y en a quand même déjà deux en parallèle.
D'accord.
Donc, ça m'inquiète moyennement. Après, je sais que Google aussi maintient un miroir, mais après, c'est pareil. Si effectivement, il lock l'accès, est-ce qu'on pourra toujours faire le miroir? Ouais. J'en sais rien. Donc, il y a quand même des copies, il y a des...
Il y a une copie chez Apache aussi, on a des backups.
Ah enfin, oui, chez Apache aussi.
Non, je pense
pas. Vous avez déjà essayé de restaurer ou pas?
Ouais, il y a des gens qui ont essayé. Non, je sais pas s'il faut s'inquiéter. Je suis d'accord que de toute façon, le fait que ça soit racheté par ce type d'entreprise, on parlera d'autres achats similaires juste après, mais bien sûr, il y a des changements qui seront opérés, mais Sonatab, de toute façon, host la partie Maven centrale, mais il y a suffisamment de copies et de redondances pour pas avoir peur de perdre les données ou quoi que ce soit. La seule chose que fait Sonatype, et qui là pour le coup c'est il faut faire attention, c'est ce sont les seuls points d'entrée sur Maven centrale, puisque tous ouais. ceux qui rentrent sur Maven centrale, même des G-Center etc. qui ont le droit de publier sur Maven centrale, passent derrière par Sonatype pour le faire. Après, ils ont eu pas mal de soucis de stabilité sur le OSSRH récemment, donc ils ont fait beaucoup d'efforts pour leur travailler. Je sais pas où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, mais c'est pas simple d'hoster et de maintenir central, d'hoster et de maintenir l'accès à l'upload de
central. Ça doit coûter cher. Hein.
Par contre, c'est vrai que ce qui reste une bonne chose certainement pour la communauté, ça a toujours été le fait que Sonatype se mette en garde-fou sur le qu'est-ce qui peut être publié, et c'est comme ça que certains diront c'est trop rigoureux, c'est compliqué de publier dans Central, etc. Aujourd'hui, ça a été quand même comme ça qu'on évite des scandales à ce qui s'était passé chez Node ou chez d'autres. D'autres
repository. Après, Sonatype, c'est aussi des outils de sécurité, d'analyse, etc.
C'est là où ils ont travaillé, c'est là où ils sont déplacés, en fait. Ils avaient au départ, ils étaient que repository avec Nexus, comme l'avait dit Emmanuel. Ils ont évolué ces dernières années, bah, du fait qu'ils avaient un accès direct au catalogue des librairies Java open source.
Ils peuvent analyser, hein.
Ils se sont dit, bah, tiens, la partie sécurité, c'est aussi un bon domaine sur lequel ils peuvent avoir de la valeur ajoutée, et ils ont fait leur produit. Alors, je suis désolé, Hervé, j'ai oublié le nom du produit une 36e fois, le produit Sonatype aujourd'hui qui est le plus en avance, c'est celui qui permet de scanner les librairies et les applications, que ça soit la librairie ou l'application finale. Je sais que nous, en tant qu'éditeur chez CloudBees, on reçoit régulièrement des rapports de sécurité qui ont été générés par le produit Sonatype pour nous dire, ah bah tiens, dans votre produit, est-ce que vous êtes vraiment impacté par la CVE, tralala, tralala, tralala. Voilà, donc ça fait partie, mais ils sont pas mal sur ce métier-là, il y en a quand même un certain nombre d'outils qui font ça. Donc effectivement, faut voir comment ils vont vouloir réorganiser et orienter la boîte. Après, pour l'instant, les personnes historiques sont toujours là. Brian, bon, il y a Hervé de la communauté Apache aussi, enfin Maven qui est aussi chez eux, etc. Donc bon, pour l'instant, il y a encore des gens qui savent ce que c'est la communauté et tout ça. Donc on va voir s'ils arrivent à faire que ça se passe bien.
Jusque-là, ouais. Tout va bien.
C'est ça. Dans la série jusqu'ici tout va bien. Docker a fait un split brain, on va dire plutôt, Docker, la partie runtime en fait, la partie Kubernetes, Swarm, etc. Visiblement a été rachetée par Mirantis, qui est une boîte qui faisait du Docker, c'est ça ? Non, du Kubernetes ou je sais plus.
Ouais, parce que je connais pas bien Mirantis, je sais pas trop ce qu'ils font.
On va regarder. Du coup, Docker historique se concentre sur ce, enfin sa force entre guillemets, hein, mais ses outils de dev, donc Docker for Mac, Docker for Windows, etc., etc. Du coup, ça fait un Docker Hub aussi, voilà. Et du coup, ça, bah, Docker, c'est pareil, c'est un outil qui est quand même pas mal utilisé par les gens dans la vraie vie, même si ils ont pas forcément de contrat avec Docker Inc. Donc ça fait un grand mouvement. Donc voilà, en espérant que tout ça se passe bien pour eux et pour les outils qu'on utilise au quotidien.
Vous après, avez des commentaires vous après, ça peut être peut-être pas inintéressant dans le sens où ça libère aussi un peu Docker, enfin Docker pas entreprise du coup, Docker de faire peut-être plus de choses avec d'autres acteurs, avec des Google, des Red Hat et autres, qui peut-être n'auraient pas été faites du fait qu'ils avaient la pression de devoir vendre du Docker entreprise, tu vois. Donc peut-être qu'au contraire, ça va aider à avoir de meilleures intégrations avec les différentes plateforme à base de containers, donc ça peut être pas mal. Après, bah sur l'aspect enterprise et Mirantis, j'ai pas trop d'avis là-dessus. J'ai pas trop ce que ça va donner ce côté entreprise.
De toute façon, ça a été compliqué dès le moment où Kubernetes est arrivé dans le domaine et face à Docker Swarm, bon bah qui vivote, ouais. Et voilà, qui a eu beaucoup de mal à survivre hein, derrière ça. Alors il y a toujours, hein, moi, on voit toujours passer hein, du Docker entreprise. Je vois pas mal de gens qui l'utilisent, mais bon, à côté de Kubernetes, voilà, Kubernetes, ça a été la grosse vague qui est arrivée, puis pff, ça a tout balayé. Mirantis effectivement était déjà dans ce domaine-là. Alors je connais pas non plus Mirantis.
Non, alors Mirantis, mais historiquement ils sont OpenStack.
C'est ça.
Et ensuite, ils ont fait un virage cube.
Voilà.
Où ils sont en train d'eux. Et voilà.
Via ce qu'ils ont fait avec. Via le rachat de Docker. Mais voilà, ils sont. Ça fait partie. Ils font de l'infra. Enfin, ils font de l'infra. Ouais, du pas niveau de 1000 joueurs. Donc, on va voir ce qu'ils arrivent à faire avec cette partie maintenant de ex-Docker Enterprise. Donc, j'imagine que ça va être rebrandé et disparaître plus ou moins le Docker Enterprise lui-même. Voilà. Mais ça marchait. Mirantis.
Voilà, donc bon courage aux gens à l'intérieur de Docker que l'on connaît ou qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Parce que c'est toujours un peu compliqué ce genre de virage ou de se faire acheter par une autre boîte et de pas savoir.
Après, c'était plus ou moins attendu qu'il allait avoir quelque chose puisque si vous vous souvenez, on avait dû en parler il y a deux ou trois mois. Il y a peut-être deux mois ou je sais plus, mais il y avait déjà eu tout un buzz sur Docker, sur un message interne qui avait été leaké, qui avait été repris dans la presse sur la mauvaise santé de Docker, que ça passerait pas l'hiver, voilà. Donc il y a eu déjà pas mal de bruit autour de Docker et de ce qu'ils allaient devenir. Donc bon, effectivement, bah finalement la preuve, ils arrivent à rebondir quand même en se séparant d'une partie de leurs acquis, bien sûr, mais voilà. Docker n'est pas mort, il reste une société Docker. Ouais. Il continue.
Après, ce qu'on ne sait pas, c'est quelle est la partie qui finançait Docker et qui venait de la partie runtime et quelle est la partie qui venait des toolings. Donc ça, évidemment, oui, ça reste leur sauce secrète, mais disons, la clé, le challenge qu'ils ont, c'est de faire d'arriver à être rentable sur cette partie tooling et repository en fait.
Ouais. Il paraît que DockerCon restait une énorme manne d'argent plus que ce qu'ils faisaient dans le reste. Donc voilà, c'est parti des soucis. Enfin, c'est compliqué de façon de vendre. C'est toujours le même truc. Hein. Vendre de l'outil, ça reste compliqué.
Vendu gratuit, déjà, c'est compliqué.
On le sait tous très bien. Voilà. Gratuit, et donc le mix avec de l'open source à côté, bah, enfin, moi je connais très bien chez CloudBees, hein, c'est toujours compliqué. Voilà. Pourquoi acheter un produit version entreprise quand il y a une version open source qui existe? Voilà. Donc c'est pas simple. Ouais.
Alors, ça y est, Guillaume a réussi. Les fondateurs de Google s'en vont, c'est ça?
Et ben, il tourne la page avec un brin de nostalgie. Mais j'ai déjà vu, il y a déjà des gens.
Ils en ont eu marre de tes blagues, en fait, c'est ça.
Tourner la page.
Celle-là, elle est dans le top 10 quand même, non?
Surtout, j'ai pas vu la blague avec Sergey Brin, tu vois, brin, Brin. Ils auraient pu le faire quand même, les journalistes français. Donc, ouais, les CEO et fondateurs de Google qui laissent les rênes du coup à Sundar Pichai qui devient du coup le CEO de et Google et Alphabet, les deux. Et du coup, eux, ils vont pouvoir, j'allais dire se la couler douce entre guillemets, j'en sais rien. Bon, en tout cas, se focaliser. Tiens, du coup, je parle de Google et il y a mon Google Home derrière qui se réveille. ce que j'ai dit Google, et du coup donc ils vont pouvoir se focaliser un petit peu plus sur les projets innovants, les moonshots, ces choses-là, les nouvelles idées, futurs produits, projets, entreprises, etc. Mais bon, pour moi,
ils veulent juste
avoir
pas,
genre...
Juste veulent plus faire chier avec le top management
les
chiffres.
Et du coup, ils sont toujours au board, ils discutent toujours avec Sundar régulièrement, ouais. etc. Donc ça change pas non plus grand-chose, mais au moins, ils pourront se focaliser plus sur les trucs qu'ils trouvent peut-être plus fun, tu vois. Ça fait 21 ans qu'ils étaient à la tête.
Ouais.
Là, ils vont pouvoir avoir un petit peu une bouffée d'oxygène. Ouais.
Et du coup, le premier projet qu'ils ont fait, c'est faire tourner App Engine sur Java. T'as vu mes transitions un peu?
Non, effectivement. Donc là, on a annoncé... quand est-ce que c'était les...
C'était à DevOps, Ludo, il est venu en parler à DevOps.
Il y a quelques semaines.
Belgique.
Exactement. Hein. Ouais, la version GA, donc General Availability de Java 11. Donc on peut faire tourner tout ce qu'on veut. Donc les vieux Java 8 et avant, il y avait des restrictions sur ce qu'on pouvait faire tourner, tandis que là dans ce runtime Java 11, on peut faire tourner vraiment tout ce qu'on veut. On peut même faire du Quarkus ou du Micronaut, hein. On peut faire ce qu'on veut avec App Engine Java 11.
Ou donc, le large, on peut tourner.
On peut faire tourner ce qu'on veut et du coup c'est enfin un des produits serverless à la mode aussi, c'est, je sais pas si vous utilisez Snapchat, c'est aussi du App Engine, hein, par exemple. Entre autres, enfin, ils utilisent plein d'autres choses, Snapchat. Donc voilà, une belle plateforme serverless pour tous vos workloads Java. Et, ah oui, en parlant de ça, du coup, j'avais lu aussi, c'est moi qui ai rajouté cet article-là. Il y a un article, mais alors il est publié en octobre et je savais plus si on l'avait couvert ou pas, alors je l'avais remis, j'espère qu'on l'avait pas couvert. Il y avait un article sur le fait que mettre des fadjar dans des images de vos containers, et c'était pas bien. Et en fait là, ça parle donc juste pour récapituler un petit peu, quand on fait des gros fadjar, en fait il y a toute la partie de toutes les dépendances, les je sais pas moi 70 mégas de Spring Boot, de toutes ces librairies. Après il va y avoir quelques mégas de des ressources dont on a besoin, dont notre code a besoin, et ensuite t'as le code. Mais si on regarde les dépendances, elles bougent pas beaucoup, elles vont bouger une fois de temps en temps. Mais du coup, à chaque fois, quand tu réuploades un fadjar, ou que tu le mets dans un container, tu le mets dans un repository, etc., tu rebalances à chaque fois tout. Alors qu'en fait, il n'y a pas besoin, finalement, de toutes ces dépendances, vu qu'elles bougent pas. Les ressources, elles changent plus, mais pas forcément si fréquemment. Ce qui change le plus, en fait, c'est ton code. Et ce qui est intéressant dans les containers, c'est le fait qu'on peut avoir des layers, des couches. Et en fait, tu peux faire trois couches. Tu peux faire une couche avec toutes tes dépendances qui bougent pas beaucoup, une couche avec les ressources statiques qui bougent un tout petit peu plus mais qui sont assez légères, et la partie avec ton code qui peut-être lui va peut-être avoir que 2 mégas au lieu de 100 mégas entre ton OS, tes dépendances, tes ressources statiques. Ce qui fait que ça va être beaucoup plus rapide à uploader, etc. Ça prend moins de place de stockage. Et il y a le plugin Jib, qui est un plugin de build, donc que tu peux utiliser dans Maven ou dans Gradle, qui permet, lui, de construire en fait ton projet Java avec cette notion de couche, et d'avoir, donc t'as la partie OS, t'as la partie dépendance, et à chaque fois on fait des couches différentes, et ça optimise pas mal les choses en termes de bande passante, de rapidité de build, de déploiement, etc. Donc voilà, un petit plugin sympa, facile à configurer dans vos builds Maven et Gradle pour améliorer votre productivité. Voilà.
Ouais. Pour les gens qui sont pas pure Java, mais plutôt autre chose, il y a aussi buildpacks.io qui fait un petit peu dans la même veine.
Ouais, les nouveaux buildpacks. Ouais. Yes.
Et puis en parlant de couches, un petit bisou à Antonio qui doit être dedans. Helm.
Ouais, j'ai rajouté ça. Alors, je suis pas un spécialiste Helm, mais j'ai vu passer la news. Donc, il y a Helm 3 qui est sorti. Donc Helm, alors dites-moi si je dis des bêtises vu que c'est pas trop mon domaine. Donc c'est on va dire des recettes de cuisine pour déployer du soft sur du Kubernetes. Donc il y avait Helm 1, Helm 2 et là ils ont sorti Helm 3 dans les nouveautés. Alors attends, hop, je l'avais ouvert. Donc il y avait un composant qui s'appelait Tiller. Qui permettait en fait donc c'est dès qu'on veut partager les, donc ils appellent ça des charts, hein, les, ce que j'ai appelé des recettes de cuisine, les Helm charts, dès qu'on veut partager ou travailler en commun sur des, sur ces recettes, donc l'outil Tiller ou Tyler, je sais pas, bon ça doit être Tiller je pense en anglais, donc celui-là ils arrêtent de l'utiliser parce que c'était plus compliqué en fait avec tous les problèmes de sécurité, droit d'accès, etc. Et du coup grâce aux évolutions je pense de Kubernetes, il y en a moins besoin si j'ai bien compris, encore une fois corrigez-moi. Avec un fouet, j'adore ça. Il y a aussi, donc, quand on est à plusieurs à travailler sur des charts, non, c'est pas quand on travaille, pardon, à plusieurs, c'est quand on veut upgrader du soft installé avec Helm. Donc, ils avaient une certaine stratégie pour merger, donc, ce qui est déployé de ce qu'on veut mettre à jour et upgrader. Et en fait, ils utilisaient une stratégie de merge double, alors que là, ils ont un truc en trois niveaux pour merger les patchs. Et apparemment, donc, ça fait des upgrades plus, des montées en version plus solides, je pense. Et puis, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah oui, il y a les, alors ça, je sais pas trop ce que c'est, les noms de version, noms de release, qui, dont le scope est associé au namespace. Donc ça doit être par rapport sans doute avec les namespaces Kubernetes. Et donc peut-être qu'on peut déployer en fonction de différents namespaces. Ça, je sais pas. Et après, il y a d'autres petites améliorations, mais comme je maîtrise pas, je préfère pas regarder de trop près et vous dire plus de bêtises que je n'en ai peut-être déjà dit. Mais encore une fois, s'il y a des experts Helm et Helm Charts, un petit crowdcast là-dessus, ça peut être sympa, ou voire même justement pour couvrir ces nouveautés de Helm 3. And it's a highway to Helm.
Je l'attendais.
Ouais, ah ouais, moi je me fais surprendre à chaque fois, ça fait partie du.
Bah après, il y a le composant AirFootBeat aussi, Helm AirFootBeat. Bon.
Le chart et le footbeat.
sans transition.
Ouais. Alors, on va parler du web.
On va parler du web, alors pas directement.
Sans Audrey, du web. Comment on va faire?
Il n'y a pas Audrey, c'est de
question. Audrey, reviens, s'il te plaît.
Non, on va parler surtout des .org. Donc c'est un peu toujours dans la même logique de tout à l'heure où on parlait des rachats. Il y en a eu pas mal finalement. Et là, il y a eu une vente un peu surprenante, qui est les .org qui étaient jusqu'à présent gérés par. Alors, attendez que je ressorte mes notes parce que sinon ça va pas le faire.
Par la Internet Society.
Internet Society. Voilà, qui normalement donc gère tout un tas de domaines et notamment donc les .org. Donc les .org, comme vous le savez, ce sont les domaines réservés aux organisations caritatives, voilà, enfin même les fondations, les Apache, etc., etc. Et donc ça a été vendu. Une fois de plus, cette fois, il y a une entreprise qui veut faire des sous, une private equity. Et donc bah la communauté appelle à se rebeller et à sauver les .org parce que bah la grosse crainte qu'il y a bah c'est que les prix explosent et que les droits de rentrer, enfin d'utiliser un .org changent et évoluent malgré les règles de l'ICANN, etc. Voilà, donc il y a pas mal d'inquiétudes sur la gestion des .org, sur ce que ça va devenir à l'avenir si c'est validé, enfin c'est déjà fait de toute façon, donc les .org se mettent à être gérés par une entreprise qui veut faire du business, là où les .org, c'est justement eux, ils veulent pas, ils ont pas beaucoup de sous en général, ils ont pas des milliers de cents à dépenser dans leur domaine internet, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous aviez vu des infos passer aussi à ce sujet-là.
Bah, c'est vrai qu'on a vu pas mal de gens râler là-dessus. Après, je sais pas. Donc, normalement, dans la politique de gestion des points org, enfin, après, une fois que tu rachètes, tu peux te dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais normalement, dans le, les, enfin, c'est pas la politique, le, enfin, les règles d'administration de ce domaine-là, ils doivent suivre certaines, enfin, c'est un ensemble de procédures, etc. Et en théorie, ils sont obligés de continuer selon le, les mêmes règles. Donc, en tout cas, c'est l'argumentaire que j'ai vu passer, disant qu'en fait, ça changera rien. Donc, j'espère qu'effectivement, ça changera rien. Et par exemple, donc, sur le, tu parlais des prix. Il y a une règle qui dit que le prix ne doit pas augmenter de plus de, alors je sais plus, c'est 10% sur 3 ans ou 10 ans ou je sais pas quoi. Donc normalement, même les prix devraient en théorie pas trop évoluer. Ils vont peut-être un peu augmenter, mais ils devraient pas augmenter ou doubler ou décupler ou je ne sais quoi. Ils devraient rester relativement stables. Donc voilà, je pense qu'il faut quand même garder un œil là-dessus. Mais c'est vrai que tu dis orgue, c'est typiquement pour tout ce qui est, enfin, les associations, les choses non gouvernementales, les pas les entreprises justement, et que ce soit géré bon par des entreprises dont le but est purement capitalistique. C'est vrai qu'il y a toujours de quoi s'inquiéter, donc je pense qu'il faut continuer à regarder ce qui se passe, quoi.
Bah ouais, et puis voilà. Et surtout, je pense que, enfin, ce qui a énervé les gens, c'est le fait que l'ICANN a retiré le, parce qu'avant il y avait des montants, enfin justement sur le prix des points orgue, c'était limité, c'était capé. Ça a été retiré genre en mois de juin et finalement le domaine point orgue est vendu à une private equity quelques mois après. Bon, c'est ouais. Voilà. Il y a quand même des choses qui sont pas très, comment on va dire, agréables pour l'instant. On va juste dire ça.
Mais... Ouais.
Voilà, donc en tout cas, il y a pas mal de pétitions, ouais. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à signer ces pétitions pour essayer de sauver le point orgue.
Ouais, sauver ça, le monde. Ça a déjà fait quelque chose de signer des pétitions sur change.org.
J'y crois moyen non plus, mais bon, c'est...
Ok, ouais, à suivre, bah après une suivre, ouais, à voir comment ça, on peut influencer ça, oui. Côté data, R2DBC, vous savez, la spécification...
Mais non, c'est R2D2, là, vu qu'ils sortent Star Wars, là, dans quelques jours, voilà. Tu rigoles.
Ouais. Donc, R2DBC est sorti en 0.8GA. Ça s'appuie sur Reactive Stream, et c'est en gros un standard API pour accéder aux bases de données de manière non bloquante. Donc, il y avait ABDA, mais qui a été défini comme comme abandonné par Oracle, là, au dernier Java, au Code One, pardon. Il y a R2DBC.
Ah non, c'est le truc JDBC Reactive Machin, ça a été abandonné?
Ouais.
Ah putain, j'ai raté un épisode.
L'argument officiel, c'est que. Avec Loom, il y aura plus besoin, et officieux, c'est qu'ils ont jamais vraiment
bossé dessus. Parce que, enfin, Loom.
Amener assez de monde autour de la table, je pense, ouais.
Ouais, parce que, enfin, Loom, ça a rien à voir. Enfin, ça résout pas le truc. C'est comme d'essayer de faire du non-bloquant avec du bloquant. Derrière, il y a toujours du bloquant. Donc ça aurait rien changé. C'est une mauvaise excuse, ça. Ah ouais, du coup, j'avais raté ça. Waouh. Ok.
Ouais.
Comme quoi ça sert, les cascodeurs, on apprend plein de trucs, hein.
Ouais, c'est ça. Si t'avais écouté les cascodeurs, d'ailleurs, on en a sûrement parlé. D'ailleurs. Il y a R2DBC qui est beaucoup drivé par Pivotal, et notamment Marc Paluch, qui est, je sais pas comment on dit Paluch, qui est le lead et le gars qui pousse, enfin, qui amène beaucoup à ce projet. Et puis, dans le même écosystème, il y a Vertex aussi, qui a un certain nombre de drivers aussi, et avec une API Vertex pour le coup, plutôt que R2DBC. Voilà. Mm-hmm. Donc, si vous cherchez les non-bloquants, c'est plutôt ces deux communautés sur lesquelles il faut aller voir. Donc, après, ça dépend si vous êtes plus Vertex ou plus Pivotal et Spring. De manière positive. En tout cas, le fait qu'il le travaille comme une... Je parlais avec lui, avec Marc, à Devox, justement. Et en fait, en tout cas, ils ont fait un effort pour que la partie R2DBC spec soit vraiment dépendant que de Reactive Streams, et donc pas dépendant de Reactor, qui est leur moteur à eux, ou de RX Java 2.
Ah oui, ça, c'est bien, ça, ouais.
Par contre, après, chaque driver a probablement besoin d'opérateurs, et du coup, va dépendre d'un de ces moteurs. C'est là où il y a encore une difficulté dans l'écosystème, surtout si on veut ne pas avoir plusieurs moteurs au sein d'une seule application, mais un seul moteur. Donc voilà, à suivre là-dessus. Et puis j'ai vu un article sympa parce que je me pose la question aussi sur doit-on/peut-on exposer les entités persistées au sens JPA dans vos API, c'est-à-dire de prendre l'objet qui est le @entity et puis de dire bah ça je l'expose dans JSON et ça fait partie de mon API. Et donc il y a comment il s'appelle ce monsieur, du coup j'ai pas le lien. Torben, voilà, Torben Janssen, qui écrit un article et il explique pourquoi lui il estime, oui, ça paraît la solution de facilité de ne pas avoir un objet qui est un DTO qui est séparé ou un sens au Web Entity Object qui est séparé du Persistence Entity Object et de faire des copies de l'un à l'autre. Lui il recommande de séparer ça, même si ça paraît plus lourd. Parce que ça vous évitera des problèmes dans le futur, notamment au niveau de l'implémentation, si vous voulez faire évoluer un nom de champ ou vous voulez rajouter un nom de champ d'un côté mais pas de l'autre, voilà, vous commencez à devoir rajouter des annotations pour ignorer d'un côté ou de l'autre. Ensuite, voilà, je parlais des fameuses annotations pour faire que sur la même classe, en fait, il y ait deux modèles qui vont s'éloigner au fur et à mesure du temps. La gestion des associations, elle est gérée différemment entre c'est juste un ID versus un proxy au sens JPA. Donc, il y a du mismatch à ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites une V2 de votre API, mais la base de données, elle va pas forcément passer en V2. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses intéressantes à lire dans cet article. Après, il y a des outils qui vous aident à ça, à faire du mapping systématique entre un objet et un autre de la copie. Vous recommande aussi d'aller regarder un petit peu autour de ça. Voilà, on va passer à la partie outillage.
On va parler un peu de Jenkins pour une fois. J'essaye d'être discret en général, je parle pas trop de mon boulot. Il y a quand même quelque chose qui j'ai trouvé intéressant à la communauté Jenkins, là, qui vient juste de sortir sur ceux qui font des pipelines. C'est la notion de matrice, qui vient d'arriver donc là cette semaine, qui permet pour ceux qui se rappellent et qui faisaient des jobs Jenkins à l'ancienne, donc avec la UI, configuration de UI, il y a toujours cette problématique de se dire, je veux que mon job il tourne sur différents OS, différentes JVM, etc. Et donc en général, on avait un job particulier qui s'appelait le job de type matrice, où on lui donnait les différents axes de test, enfin de build on va dire, qui étaient passés en variable au build lui-même. La même chose est disponible maintenant sur les pipelines. Je perds ma voix, je reviens dans 2 secondes.
Il est dans le saloon, il a été crashé dans le crachoir à tabac. Ah non, ouais, alors il est mort en fait, on ne sait pas.
Carrément. Après la grève de la box SFR de Vincent, la grève de la voix de Varm.
Non mais une extinction de voix juste quand tu commences à parler, c'est dommage. Donc les pipelines matrix
ça dépend ce que tu dis.
En fait, on veut me faire taire, on ne veut pas que je parle. Les pipelines maintenant dans Jenkins vous permettent d'avoir une notion d'axe. Vous définissez vos différents axes, quel JDK, quels OS par exemple, et derrière vous allez être capable dans votre build d'utiliser ces variables là pour faire vos tests par exemple ou votre build. Voilà. Donc je trouve ça intéressant parce que c'est quelque chose qui manquait un peu dans les pipelines et qui permet de les simplifier quand même beaucoup. L'autre nouveauté, c'est Bibi qui a bossé dessus, donc il est tout content Bibi de donner quelque chose à la communauté, c'est le Jenkins Health Advisor. C'est un plugin que vous installez dans n'importe quel instance Jenkins et qui va vous permettre de recevoir des rapports de qualité et de stabilité sur votre instance. Ça envoie chez nous un bundle où sur lequel il y a les informations sur votre version, quels plugins sont installés, et au lieu d'avoir à faire la veille et de vérifier qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui est buggé, qu'est-ce qui est pas buggé, ben nous on le fait pour vous puisque c'est ce qu'on fait pour nos clients. Et bon, on ouvre le service désormais à la communauté et chacun peut recevoir le rapport de qualité de son instance. Voilà. Donc installez Jenkins Health Advisor pour la stabilité de vos instances.
Cool. Et puis il y a Julien Ponge qui fait un retour sur son expérience donc sous macOS de son terminal qui est iTerm 2 avec ZSH. Moi, j'avoue que je suis resté à Bash et du coup, j'ai tous mes petits scripts qui font les machins, mais c'est vrai que ça me tente un petit peu d'avoir un truc où c'est préconfiguré comme il faut avec les belles couleurs, la belle autocomplétion et machin. Mais j'avoue que
sachant que sur Catalina, normalement, tu passes de toute façon à ZSH.
Oui, après, tu peux toujours installer les Bash avec.
Oui, tu peux toujours, mais ouais.
Moi, d'accord, ça m'a pas changé. Enfin, j'ai fait l'upgrade et je suis resté en Bash. Mais après, je sais pas. Par défaut, quand t'installes un nouveau Catalina, oui, certainement que t'es en ZSH de mémoire.
Ouais.
Après, j'ai l'impression que ça change quand même tous les 5 jours parce qu'il y a encore quelques mois, on parlait de Fish. Non, c'était pas Fish, je crois, qui était super
génial. Fish, ouais.
Etc. Donc là, on repart sur ZSH. Avant, c'était Bash. Bon, moi, je suis toujours resté effectivement sur Bash. j'ai l'impression. C'est un peu le souci que. C'est le même souci que moi j'ai à passer sur Linux. Je me dis, il y a tellement de choix qu'au final, tu passes ton temps à changer, à réécrire tes trucs, tes machins, ton chose, tu changes ta UI. Je sais pas si la valeur est si importante pour le temps, par contre, à convertir ses habitudes, à convertir ses scripts, etc. Je sais pas.
Ouais. Bah moi, après, j'avoue que mon rendu, il est pas à la hauteur de ce que j'aimerais. Tu vois, un truc un peu plus joli, je préférais. Mais voilà, j'ai tellement de trucs un peu customisés que quand je dis j'essaye, après, il y a mon Vim qui pète dans un coin, mon Tmux qui marche plus. Enfin bref, du coup, j'aimerais bien pouvoir tester sans avoir à faire un gros basculement déjà. Et puis, ouais, petit à petit, quoi. Mais bon, bref. Voilà. Mais en tout cas, voilà, pour les gens qui hésitent, ils utilisent ZSH et OhMyZSH pour la customisation. Voilà. Cédric is back.
Ouais, Cédric, là, il nous a fait 2 articles. Donc, Cédric Champeau sur Gradle. Donc, on entend toujours ça régulièrement, le fait que, donc, dans le débat Maven contre Gradle, Maven est plus déclaratif, donc c'est mieux, etc. Et en fait, dans ce premier article-là, sur son blog, Cédric nous parle des aspects, justement, au contraire, déclaratifs de Gradle. Donc, effectivement, que tu utilises Groovy ou Kotlin, d'ailleurs, avec Gradle, tu peux faire des choses qui sont scriptées, sachant qu'en Maven, tu peux aussi scripter Maven de différentes manières. Donc, c'est pas non plus nouveau. Et ce qui est intéressant avec, en fait, tu peux assez facilement structurer tes builds en Gradle pour être vraiment très déclaratif et n'avoir rien de scripté du tout et vraiment juste dire voilà les étapes ou les goals à la Maven. Et si t'as un projet, tous les projets de ton entreprise, mais tu veux imposer certaines pratique de configuration ou je ne sais quoi, tu peux le faire de manière très déclarative et que tous tes projets doivent suivre ce mode déclaratif-là. Donc en fait, tu as encore plus de possibilités d'être très déclaratif dans ton build Gradle. Donc ça, c'est le premier article donc qu'il a publié. Et il reprend en fait... suite à des échanges à chaque fois sur Twitter, donc il reprend un petit peu les différents commentaires et déconstruit, démonte un petit peu ces différentes critiques ou questions. Ça, c'est le premier article. Et l'autre chose, c'est, donc là, c'est un blog qui, par contre, est sur le blog du site de Gradle, où il parle, en fait, dans Gradle 6, il y a le nouveau, comment il l'appelle, le truc de dépendance, le nouveau système de... le sujet, c'est l'enfer des dépendances, dependency hell, ouais, je sais pas comment...
J'hésite à t'aider, je pourrais t'aider, j'avoue, mais...
Bah écoute, remarque, si tu veux...
Il y a des nouvelles métadonnées.
Parce qu'il y a les métadonnées de module, si c'est bien ça.
Notion de module,
Et qui permet... Bah remarque, si tu veux en parler, vas-y, vu que t'es un expert Gradle. Moi je veux bien, parce que je suis même pas un expert Gradle.
Certainement pas, mais ce qu'ils ont fait dans Gradle 6 et donc ce qui est nouveau, c'est effectivement d'avoir fait un nouveau DSL qui permet de facilement expliciter les dépendances d'un projet, enfin d'un module, on va dire d'un module. Et c'est effectivement beaucoup plus riche que ce que peut faire un Maven. Si bon, Maven a des tas de défauts, on le sait bien. Mais dans Maven, par exemple, au niveau des dépendances, vous pouvez uniquement gérer des scopes avec un nombre limité de scopes. Vous pouvez la transitivité, elle est là tout le temps, mais ça dépend quand même du type d'artefact, etc. Enfin, vous avez vraiment très peu de contrôle. Dans Gradle, ils ont complètement revu tout ça pour avoir un système déclaratif qui permette de dire quel type de dépendance vous avez. Est-ce que c'est un type API ou type implémentation? C'est donc, est-ce que vous en avez besoin pour le runtime ou vous en avez besoin pour compiler? Est-ce que vous avez besoin de, enfin, je dis l'inverse là de ce que je suis en train de dire, c'est ça? Ouais. Donc API, c'est vous en avez besoin pour compiler et implémentation pour exécuter, ce qui fait que bah ça a des impacts différents. Vous pouvez mettre des règles. Est-ce que c'est une dépendance forte vers une version ou pas, de manière à dire bon bah dans la résolution du graphe, quelles sont les règles. Maven par exemple est très bête où il va dire sur une même dépendance donnée, il va prendre celle qui est la plus proche du projet, il va prendre la version de celle qui est la plus proche du projet. Donc dans la transitivité, il va chercher s'il y en a une qui est niveau 3, l'autre qui est niveau 4, quelles que soient les versions des deux libraires en question, il va prendre celle qui est la plus près du projet. Là, Gradle met des moyens d'expliciter le comportement que l'on veut, le comportement que l'on expose nous-mêmes pour nos propres dépenses, etc. Donc ils ont un nouveau fichier de description qui est uploadé chez Central. Et le but étant bah, de pouvoir avoir tous les projets qui dépendent et qui utilisent ce fichier de métadonnées plutôt que les pommes, puisqu'aujourd'hui finalement ils ne faisaient que reporter pour beaucoup à générer des pommes avec des dépendances classiques à la Maven et à utiliser ça. Donc là ils se lancent dans cette partie où Gradle
manger des pommes
arrêtez de manger des pommes, mais écrivez le descripteur de module de Gradle qui est plus explicite et de manière à ce que on puisse faire plus de choses dans le système de dépendance. Voilà. Je vais pas en parler plus longtemps parce que sinon on va partir sur un épisode de 3 heures.
Moi je suis content, un nouvel expert Gradle dans le podcast, c'est bien.
Ouais, de toute façon on a la bourre alors. On va...
Ouais. On va pas en parler 3 heures mais voilà, mais il y a son article est bien expliqué sur tous les changements et ce que ça propose, etc. Voilà. Donc bien joué à l'équipe Gradle en tout cas.
On va passer à la méthodologie. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça là-dedans, mais bon, bref, c'est plutôt à l'humain. Et il y a quelqu'un qui pointait vers une étude, en fait, sur le lien entre les pays, le PIB, l'évolution dans le temps et la notion de satisfaction de la vie. Et en fait, c'était assez, assez rigolo, et en gros sur les événements de la vie du genre divorce, veuvage, ce genre de choses, on voit que l'humain est assez résilient et on voit il y a des informations qui sortent. On voit par exemple dans un divorce, on voit que les gens ils sont de moins en moins heureux jusqu'à en gros un an avant, et puis au moment où le divorce se passe, ça va un peu mieux, puis après ça va beaucoup mieux. Donc là il y a un côté résilience, mais on voit que en gros ça commençait à bouillir avant, donc on voit le côté historique. Au niveau du veuvage, ça se voit un petit peu parce que j'imagine que la personne est malade l'année d'avant, quelque chose comme ça, donc on voit une première dégradation après une grosse chute au moment du veuvage, et puis la personne qui récupère au fur et à mesure des ans, même si ça prend un peu plus longtemps. Il y a pareil sur les, quand une boîte fait un lay-off, comment on dit un lay-off,
un plan
de licenciement, voilà. Et donc là on voit pareil que là ça va pas bien de quelques temps avant, et puis après bon là il y a la déprime, mais après ça remonte assez vite. Et ce qui montre qui est différent, c'est le fait d'être au chômage de longue durée, en fait. Donc ça va pas bien avant parce qu'on imagine bien qu'il y a des causes au fait qu'on soit au chômage après, mais après donc il y a une grosse chute au moment où ça arrive, et après ça remonte pas vraiment, et même après 5 ans on voit que les gens en chômage en longue durée, c'est vraiment difficile. Donc il y a pas de La différence, c'est que c'est pas un élément discret, puisqu'on est encore, j'imagine, sans emploi. Du coup, d'où la raison pour laquelle ça reste aussi bas et ça remonte pas. Mais c'est un événement qui est très difficile, visiblement, à vivre par les gens. Mais je vous encourage quand même à voir cette étude de manière générale qui fait des corrélations sur un pays développé. Alors, plus on est dans un pays développé, en gros, plus on a tendance à se déclarer heureux. Tout ça, c'est du déclaratif. Et on est plus heureux maintenant que ce que on y était il y a quelques années aussi, contrairement à ce que c'était mieux avant, n'est pas forcément vrai, en tout cas dans cette étude. Évidemment aussi, enfin évidemment peut-être pas, mais en tout cas plus on est riche, plus on est heureux. Enfin moi j'ai pris du plaisir à regarder cette étude et analyser les choses, essayer de comprendre. C'est assez intéressant pour changer certains préjugés et puis voilà, s'informer, voir des choses un petit peu curieuses. Et puis on va passer à la loi société organisation.
Bah, très rapidement, parce que c'est un peu orthogonal, mais on avait déjà parlé de la Software Heritage Foundation, qui donc c'est un projet français qui a pour but de référencer un maximum de codes sources, notamment open source, et tout l'historique, de manière à se dire que bah voilà ce que l'on produit comme code, surtout du côté open source aujourd'hui, ça a autant de valeur historiquement, et peut-être que dans des décennies ou des siècles, ça aura autant d'importance que bah les premières écritures sur les murs ou des livres, etc., etc. Et donc là, ce qu'ils ont ouvert comme service il y a pas très très longtemps, c'est parce que bon, bah, ils essayent de scanner des tonnes de projets, de repositories, de fondations, de tout ce qu'ils trouvent, mais ils ne peuvent pas tout connaître. Et donc ils ont ouvert un portail sur lequel vous pouvez aussi demander à avoir vos projets open source. Donc je pense à toi, Emmanuel, Guillaume et autres, mais voilà, vous pouvez demander à ce que votre fondation, à ce que vos projets, etc., soient référencés et vérifier qu'ils le soient bien. Donc vérifie, Guillaume, que Groovy a bien été référencé chez la Software Heritage Foundation. Pareil pour toi, Emmanuel, avec Quarkus, etc., pour être sûr que bah voilà, nos enfants, petits-enfants, arrière, petits-enfants pourront toujours trouver le code source des premières versions de Groovy, codé par Guillaume, ou de Quarkus, codé par Emmanuel, voilà. Donc voilà, donc juste quelque chose qui peut être intéressant à faire si ça n'est pas déjà référencé. Je pense que pour des gros projets comme ça, j'imagine qu'ils le sont déjà.
Ils disent bah par défaut tout ce qui est sur GitHub on prend.
Il y a donc je crois qu'ils travaillent avec GitHub par exemple, je crois qu'ils travaillent avec GitHub et justement, et d'ailleurs GitHub a sorti un service, un archive.github.com ou un truc comme ça. Donc mais je sais qu'ils travaillent, j'en discutais avec une personne qui travaille et effectivement ils bossent avec GitHub, mais je sais pas s'ils scannent déjà tout, s'ils archivent déjà tout ou pas, je ne suis pas sûr. Mais je sais qu'ils travaillent en tout cas avec GitHub, ça, pour le coup.
D'accord. Ça, c'est important. Voilà, on va passer au... Alors, on vous garantit pas la complétude, ni même s'il n'y a pas des choses qui sont un petit peu obsolètes par rapport à ce qu'on va dire, mais on va faire la liste des conférences. Donc déjà, il y a le Snowcamp du 22 au 25 janvier, DevFest le 14 février, oui, alors pendant jusqu'au 13 décembre.
Jusqu'au donc, 13, faut se dépêcher. Oui, encore. Ouais. Normalement, je vais vérifier. Hein. Toutes les dates sont bonnes. Ouais. Mais effectivement,
D'accord. Bah, Snowcamp, le CFP, il n'est pas ouvert. Hein.
Le Snowcamp. Ouais. Snowcamp, c'est fermé.
Ouais.
Le CFP est fermé. C'est les ouais. places qui vont rester encore, je crois.
Pardon. Ouais. Ouais, c'est ça. Brightscamp du 25 au 27 mars. On parle de 2020, les gars. 2020. C'est le futur. Voilà. Le CFP est ouvert. Il a ouvert il y a, je ne sais plus quand. Mais bon, là, il est ouvert. DevOps France, du 15 au 17 avril. Le CFP n'est pas ouvert, il est ouvert, il n'est pas ouvert, il est ouvert.
Il est ouvert, on l'a ouvert avec un peu de retard lundi. Comme prévu, mais c'était pas annoncé de cette manière-là. Mais oui, ouvert. Vous allez jusqu'au 12.
Et surtout, les places partent un petit peu comme la Google I.O. conférence. C'est fini.
C'est fini, c'était en 57 heures, c'était fini. Voilà. Donc effectivement, dans les places, bon, il y a une liste d'attente qui a été mise en place. Donc vous pouvez quand même c'est des places qui sont réservées, hein, tant que c'est pas payé, on n'est pas encore sûr que qu'elles soient toutes prises. Mais effectivement, les réservations des 2500 places de base ont été faites en 57 heures cette année. Voilà. Donc bah compliqué.
Voilà. Donc après, du coup, votre seule option, c'est d'être, d'être accepté en tant que speaker, en gros.
Voilà. Donc le CFP est ouvert. Donc on vous attend.
Je sais derrière... pas si c'était stratégiquement une bonne idée, ce que je viens de dire là.
Mais... Ouais, c'est ça. C'est... je te rappelle que tu fais partie des reviewers et que donc tu vas avoir,
ouais.
Sachant que cette année, on a limité à 3 propositions le nombre de propositions par speaker. Voilà.
D'accord.
Ah, oui.
C'était c'est ouvert. D'ailleurs, c'est ouvert déjà pour moi faire des revues. Je crois pas avoir vu de
message. Si, c'est ouvert. Si tu suivais la mailing list que tu ne suis pas, tu saurais
non,
que c'est ouvert depuis
coup,
depuis lundi
du
aussi.
Du coup, ça doit être non parce que pour le coup, ça y est, je suis à jour de mes emails et du coup, je les reçois pas.
Mais effectivement, depuis lundi soir, c'est ouvert et il y a déjà une cinquantaine de propositions, quelque chose comme ça, je crois. 60, non, même plus, je crois 70 d'ailleurs.
D'accord. Et puis Riviera Dev du 13 au 15 mai 2020. En général, il fait chaud, on mange dehors, c'est cool, avec des lunettes de soleil. Et le CFP est ouvert également.
C'est ça.
Voilà, merci de nous avoir suivis pour cet petit épisode de 1h29, peut-être.
C'est super court quand on n'est pas là, on peut dire. Hein.
Ouais, c'est ça. non mais c'est Vincent là. Vincent n'était pas là, du coup on a gagné en temps. Et là pas de chance, Vincent il était là, il était dispo et la SFR lui a fait un petit coup dans le dos et paf, on n'a pas pu l'avoir. Donc bisous aux autres casse-codeurs qui n'étaient pas là et puis de toute façon on continue nos rotations. Et alors il y a des gens qui doivent attendre la partie 2 de Android, de l'interview Android, et qui doivent commencer à m'en vouloir sérieusement. Je suis désolé, il y avait un avantage en timing à mettre l'interview CTO là qui est sortie il y a quelques jours. Mais je pense que du coup, je vais remettre l'épisode en entier Android, parce que de toute façon, on aura tout oublié, on va pouvoir repartir. Et puis, je mettrai l'heure à laquelle la partie 2 commence pour ceux qui s'en rappelaient bien et qui veulent avancer plus vite. Voilà, encore désolé, donc ça va sortir en décembre, voilà, pour Noël. Voilà, joyeux au revoir Noël. Tout le monde, et puis à la prochaine.
À la prochaine.
Ciao.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.